La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas.
Je vous invite à prendre Éphésiens 2, chapitre. En effet, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu et parce que vous croyez. Cela ne vient pas de vous, c'est Dieu qui vous donne le salut.
Bien, je suis heureuse d'être à nouveau devant vous aujourd'hui. Alors ne dit-on pas que quelqu'un qui défend une idée avec fougue, qui défend un projet, une conviction, et qui semble prête à surmonter toutes les difficultés, tous les obstacles pour aboutir à ses fins, qu'il a la foi, qu'il y croit? La différence entre une personne athée et une personne croyante est grande. La personne athée croit en un espace limité, aux autres, en l'humanité, tandis que la personne croyante croit en son Dieu qui, lui, est illimité. Donc, sa foi, par son Créateur, devient illimitée. Et comme a dit le Christ, si vous aviez la foi comme un grain de sénevé, vous pourriez déplacer des montagnes. C'est la vraie foi, la totale confiance en Dieu, c'est la foi du croyant, c'est la foi du chrétien. Alors je vais prendre dans la Bible deux exemples. Le premier, c'est celui de Moïse. Vous savez, Moïse est un être exceptionnel. Il a été élevé à la cour de Pharaon. Il a reçu une éducation des plus grandes par les prêtres, en sciences religieuses, en littérature, en mathématiques, etc. Et il a vécu 40 ans à la cour de Pharaon. On peut donc supposer que Moïse est devenu peut-être un chef de guerre, mais assurément quelqu'un de très haut placé, puisqu'il devait devenir dirigeant de l'Égypte. Donc quand Moïse est devenu adulte, nous dit le texte, il s'en va de chez Pharaon. Il est conscient de sa force et il pense à lui seul pouvoir remettre de l'ordre entre l'Égypte et Israël.
Un jour, Moïse, devenu adulte, alla voir ses frères de race. Il fut témoin des corvées qui leur a été imposées. Soudain, il aperçut un Égyptien en train de frapper un de ses frères, hébreu. Moïse regarda tout autour de lui et ne vit personne. Alors il tua l'Égyptien et enfouit le corps dans le sable. Il revient le lendemain et trouva deux Hébreux en train de se battre. Il demanda à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton compatriote? Qui t'a donné chef pour juger nos querelles ?» répliqua l'homme. « As-tu l'intention de me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Voyant que l'affaire était connue, Moïse eut peur. Le Pharaon lui-même en entendit parler et chercha à le faire mourir. Alors Moïse s'enfuit et alla se réfugier dans le pays de Madian.
Donc à partir de cette erreur de vouloir régler les choses par lui-même, au lieu de remettre tout entre les mains de Dieu, Moïse est obligé de fuir au pays de Madian. Et là-bas, le prêtre de Madian, Jéthro, qui a 7 filles, eh bien, Moïse épousera une de ses 7 filles, Séphora. Il deviendra berger et il restera 40 ans chez son beau-père. Alors, il faut savoir que le nombre 40 est souvent mentionné dans la Bible. Et là, Moïse, donc, a vécu 40 ans chez Pharaon, ensuite 40 ans dans le camp chez Pharaon, ensuite 40 ans dans le pays de Madian, chez son beau-père Jéthro. Le peuple d'Israël a cheminé 40 ans dans le désert avant d'entrer dans la terre promise. Élie a marché 40 jours et 40 nuits jusqu'au mont Horeb. Jésus s'est retiré 40 ans au désert dans le jeûne et la tentation. Donc ce chiffre est symbolique, bien sûr, c'est la maturation spirituelle de l'homme dans la Bible. Donc alors que Moïse garde les moutons, Dieu lui apparaît à travers le buisson ardent et lui confie la mission de délivrer le peuple d'Israël. On connaît la suite, Moïse va, grâce à la volonté de Dieu, délivrer le peuple d'Israël. Et sa foi a complètement changé. Il s'appuyait auparavant sur ses propres forces, maintenant il a foi en Dieu et c'est par Dieu qu'il va agir et non par lui-même. Je vais faire une parenthèse. Beaucoup de gens, d'historiens et d'autres personnes, ont parlé de la Bible comme étant une fable. Or, il s'avère qu'une stèle a été retrouvée au temple de Karnak à Louxor en Égypte, qui date de 3500 ans. Elle a été découverte en 1947 et en 2014, elle a été redécryptée par deux archéologues qui sont de l'Institut oriental de Chicago. Et d'après les recherches qu'ils ont faites, eh bien, les dix plaies d'Égypte correspondent avec l'éruption du volcan Terra, qui a été une explosion phénoménale et qui est située à 700 km au nord du Caire. Alors, ces études climatologiques relatent cette éruption de Terra, qui est aussi mesurée jusqu'en Californie. Et les scientifiques expliqueraient et valideraient les dix plaies d'Égypte subies par les Égyptiens. Alors, ce reportage, nous l'avons regardé il y a une semaine à la télévision. Et si vous souhaitez avoir toutes ces informations, eh bien, je vous donnerai les informations pour pouvoir le regarder. Donc, cette découverte donne une grande validité à la Bible. Je ferme la parenthèse. Revenons à Moïse. N'oublions pas que Dieu s'est servi de Moïse pour faire sortir son peuple d'Égypte. Il fallait reconstruire Israël après avoir été pendant 400 ans esclave de l'Égypte. Donc maintenant, nous avançons dans le temps et je vais prendre l'exemple d'un homme qui est très similaire à Moïse, c'est l'apôtre Paul. Alors pourquoi similaire? C'est parce que Paul a eu une instruction d'exception. Il a été dans les grandes universités hébraïques et il a eu comme professeur Gamaliel, qui était docteur de la loi, qui était reconnu par le Sanhédrin et aimé du peuple. À partir de cela, Paul, qui s'appelait Saul, va se croire quelque part autorisé à persécuter les chrétiens. Et il pense certainement que les chrétiens sont des gens qui appartiennent à une secte dont le gourou a été cloué au bois. Or, un prophète de l'époque ne peut pas être cloué au bois, car ce sort est réservé aux bandits. Apparemment, il ne le savait pas, ou il avait mal lu le texte d'Ésaïe 53. Et on s'aperçoit que même un homme avec une telle instruction comme l'apôtre Paul va commettre des erreurs qui seront graves pour lui. Mais Dieu va rectifier les choses. Car lorsqu'il persécutera les chrétiens, il sera stoppé sur le chemin de Damas et Christ va lui apparaître dans la lumière de sa divinité. Et là, Saul va devenir aveugle pendant 3 jours et c'est uniquement par imposition des mains d'Ananias qu'il va recouvrer partiellement la vue. Je dis partiellement car lorsqu'on lit l'Épître aux Galates, qu'on vient d'étudier tout ce trimestre, bien on s'aperçoit que Paul dit « Vous m'avez reçu, j'étais malade et j'ai compris que si vous aviez pu, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner ». Maintenant, ce n'est plus Saul, mais on l'appellera Paul. Et nous savons tous ce que Paul va devenir. Il passera sa vie à voyager et il deviendra le plus grand prédicateur. Et puis, quelque chose aussi d'important, il subvenait à ses besoins. Il fabriquait des tentes et il les vendait. C'était un homme infatigable. Alors tout ceci se passe il y a 2000 ans. Mais qu'en est-il aujourd'hui ? Que se passe-t-il aujourd'hui ? Bien, je vais vous raconter une histoire, celle de Philippe Guénard, qui est plus connu sous le nom de Tim Guénard. C'est un militant chrétien, c'est un éducateur, un apiculteur. Et il raconte son histoire, un éducateur, un apiculteur. Et il raconte son histoire dans son livre « Plus fort que la haine ». Il raconte son expérience d'enfant battu et comment il a réussi à rebondir. Il y a quelques années, lorsque j'ai lu son livre, je n'ai pas réussi à le lire 10 minutes d'affilée sans avoir les larmes aux yeux, tant son parcours est poignant, de par sa souffrance quand il était enfant, adolescent et jeune. Alors cet enfant a été abandonné à l'âge de 3 ans par sa mère. Tim a été élevé par un père alcoolique et violent. À l'âge de 5 ans, il a été hospitalisé. Il a eu les jambes broyées et son père a été déchu de ses droits. Tim est resté 3 ans sur son lit d'hôpital, sans jamais recevoir aucune visite et dans l'espoir continuel de remarcher un jour. Lorsqu'il est sorti, il est allé à l'assistance publique. Et quelque temps après, il a été adopté par un couple d'agriculteurs. À 11 ans, il est injustement accusé d'avoir incendié une grange. Il part en maison de correction, où il souffre de mauvais traitements, qui le renferment sur lui-même et le rendent violent. Il est alors muté dans la section des plus durs de la maison de correction. L'année d'après, il fugue et se cache à Paris, à côté de la tour Eiffel, dans les garages à bicyclette. Violé, il échoue chez les braqueurs de prostituées qui l'embauchent comme guetteur, mais aussi comme prostitué masculin. Il découvre aussi l'entraide entre les plus pauvres. À 15 ans, il est pris par la police et il se fait renvoyer de la maison de correction. Et là, un juge lui fait confiance et l'envoie en apprentissage chez un tailleur de pierre. Parallèlement, Tim Guénard découvre la boxe. Il dit que ça l'a aidé à canaliser son énergie. Il décroche enfin un CAP de tailleur sculpteur de pierre chez les Compagnons du Devoir. Et puis un jour, il découvre la communauté de l'Arche, qui s'occupe des handicapés mentaux. Et le père Thomas, il rencontre aussi Mère Teresa et d'autres. Le père Thomas l'accueille sans condition, lui parle, lui fait confiance. Ils deviennent des amis. Et là, il dit quelque chose de magnifique. Dieu m'a fait un fabuleux cadeau en m'offrant le père Thomas. Le jour où il est devenu mon père, j'ai voulu entrer dans sa famille, j'ai voulu être chrétien. La naissance de sa foi l'amène à se convertir et sa vie change. Il découvre l'amour de son sauveur. Depuis, il est marié, père de famille, et il se consacre aux jeunes en difficulté. Donc là, nous voyons qu'à travers tout ceci, la foi, c'est une rencontre. C'est un sentiment qui naît de l'intérieur de soi pour rebondir vers l'extérieur. une expérience avec notre Dieu, qui donne un sens à sa vie. Donc la parole de Dieu donne naissance à la foi, produit un changement, forme le caractère, transforme les circonstances et permet de surmonter les épreuves, guérit les blessures, donne de la joie. Impossible de vivre sans elle. La parole est aussi notre nourriture de base, indispensable à l'accomplissement de notre salut. Il est dit que c'est notre lait, notre pain, notre nourriture solide et notre miel. La Bible est symbolisée par ces différents aliments. Le lait, la Bible nous dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait pur de la parole, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Alors le pain, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le miel, les commandements du Seigneur donnent la lumière. Les décisions du Seigneur sont vraies. Et un peu plus loin, elles sont plus délicieuses que le miel le plus doux. Alors Dwight Moody, qui est un philosophe, un écrivain, un évangéliste, dit que la Bible ne nous a pas été donnée que pour augmenter nos connaissances, mais pour changer nos vies.
Certes, nous sommes des êtres humains, mais nous ne combattons pas d'une façon humaine. Dans notre combat, les armes que nous utilisons ne sont pas d'origine humaine. Ce sont les armes puissantes de Dieu qui permettent de détruire des forteresses.
L'apôtre Paul décrit un principe essentiel dans ces versets. Les luttes du chrétien sont spirituelles. Il introduit une notion inconnue auparavant, celle des forteresses. Les forteresses sont à l'origine, souvent, de l'échec et peut-être même du manque de spiritualité. Au sens littéral, une forteresse est une place fortifiée, un endroit où règne la sécurité. Sur le plan spirituel ou mental, elle réside dans l'esprit de l'homme. Toutes les addictions ont pour origine des forteresses qui existent dans l'esprit ou la pensée humaine. La drogue, l'alcool, la cigarette, et il y en a plein d'autres, les jeux, et il y en a beaucoup d'autres. Cette forteresse pousse l'être humain à pécher une première fois en lui donnant une circonstance atténuante. Puis nous nous confortons dans cette position et continuons de pécher en trouvant cela légitime. Gloire à Dieu pour sa parole. Si on l'accepte, elle peut renverser ces mauvais raisonnements qui conduisent au péché. Il n'y a aucune pensée, aussi perverse soit-elle, que la parole de Dieu ne puisse renverser. L'homme doit et peut contrôler ses pensées, contrairement à ce que beaucoup de personnes croient. Notre responsabilité à ce sujet est double. Nous devons non seulement briser toute pensée ou tout raisonnement qui va à l'encontre de Dieu, mais également conduire toutes nos pensées vers l'inspiration divine. En effet, chaque pensée crée une image dans notre esprit. Une fois que cette image est ancrée, imprimée au plus profond de notre être, il est fort probable qu'elle se matérialise dans notre vie. Tout un processus, il y a de création. Elle se décompose en trois phrases. La première, c'est la pensée. La deuxième, c'est l'image. Et la troisième, c'est la matérialisation ou la réalisation. La lecture, la méditation et la proclamation assidue de la Bible sont les moyens qui nous permettent d'identifier tous les raisonnements qui vont à l'encontre de tout ce que Dieu a prévu pour nous. Ce sont les moyens qui nous permettent de détruire ces raisonnements et de ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est en ce sens que la parole de Dieu est puissante. Cette vie qui est en elle transforme notre vie, influence nos pensées, nous aide à renverser les forteresses bâties en nous, nous donne une nouvelle vision de notre destinée. Il est impossible d'être l'ami de Dieu si l'on ignore ses paroles. Nous ne pouvons aimer Dieu si nous ne le connaissons pas. Et nous ne pouvons pas le connaître sans lire sa parole. La Bible dit que l'Éternel se révélait à Samuel par la parole de l'Éternel. C'est ainsi que Dieu agit encore aujourd'hui. Si nous ne pouvons pas passer toute la journée à étudier la Bible, nous pouvons cependant y penser, nous rappeler des versets que nous avons lus ou mémorisés et les repasser dans notre esprit. On considère souvent la méditation comme un rite officiel et mystérieux, difficile, pratiqué par des moines et des mystiques vivant à l'écart du monde. Cette méditation n'est rien d'autre qu'une pensée ciblée, une technique que chacun peut apprendre et utiliser n'importe où. Quand nous pensons et repensons à un problème, c'est de l'inquiétude. Quand nous pensons et repensons à la parole de Dieu, c'est de la méditation. Si nous savons nous inquiéter, nous savons aussi méditer. C'est simplement l'objet de notre attention qui change. Au lieu de nous focaliser sur nos soucis, nous nous concentrons sur des versets bibliques. Plus nous méditons la parole de Dieu, moins nous aurons de sujets d'inquiétude. Si Dieu considérait Job et David comme ses amis, c'est parce qu'ils chérissaient sa parole par-dessus tout et qu'ils y pensaient continuellement tout au long de la journée. Et Job nous dit « J'ai gardé dans mon cœur tout ce que Dieu m'ordonnait. » Eh bien, pour conclure, je dirais que Moïse, Paul et Tim ont rencontré Dieu, tous les trois, à travers un parcours différent, qui les ont menés vers la véritable foi. Dans la Bible, Dieu dit à chacun de nous, « Tu comptes à mes yeux, tu as du prix et je t'aime. » Nous aussi, faisons confiance à notre Dieu. La naissance de la foi, c'est la clé qui ouvre la porte pour nous conduire vers l'éternité. Amen.